Slate Podcast.
Bonjour, ce n'est plus Kétéran, mais Axel de l'équipe Audible. Chez Audible, nous avons toujours à cœur de soutenir la créativité des programmes de podcast, comme pour Transfert, qui depuis 3 ans déjà, dévoile une partie de notre intimité. Audible, appli de divertissement audio, vous souhaite une bonne écoute.
Il y a ce film des frères Dardenne, Deux jours, une nuit. Marion Cotillard joue le rôle d'une employée d'une entreprise de panneaux solaires, Sandra. Elle revient de congé maladie et pendant son absence, son patron a réparti son travail sur les autres employés en leur donnant une prime. Au retour de Sandra, ils ont un choix. Perdre leur prime et permettre à Sandra de reprendre son travail ou garder leur prime. Et Sandra perdra son emploi. Le film pose cette question. Qu'est-ce qui déclenche des élans de solidarité ou non? Qu'est-ce qui fait qu'un individu, puis un groupe, peut trouver en lui de se sacrifier pour un autre? Est-ce que c'est une question d'empathie, de générosité? Est-ce que c'est une pure question politique? Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous entendrez l'histoire de Christophe au micro d'Iris Ouedraogo.
Nous sommes en 2008, nous sommes une famille comme beaucoup de familles. Nous habitons à Saint-André-le-Puy, nous avons une maison, je suis marié à Lydie et nous avons 2 enfants, Mathis qui a 9 ans et Emma, l'aînée qui a 10 ans et demi. Ce sont des enfants très bien intégrés à Saint-André-le-Puy, très bien intégrés à l'école. Ils sont pleins de vie comme des enfants tout à fait normaux. Ma fille joue au basket à cette époque-là et Mathis, lui, commence, après avoir essayé un peu la natation, commence le tennis. Et c'est quelque chose qui accroche bien. Il commence donc les cours tennis. Mais voilà, 2 enfants tout à fait normaux. Voilà, moi je travaille à l'époque dans une société d'eau minérale et ma femme travaille dans les véhicules de loisirs. Février 2008, j'amène mon fils chez le médecin, il se plaint de maux de ventre. Il n'est pas bien, un tout petit peu de fièvre, mal au ventre, je l'amène. Bon, c'est un peu le début, c'est l'époque un peu des gastro-entérites. Bon, c'est pas trop de soucis, donc je l'emmène. Et effectivement, une suspicion de gastro, donc il est soigné pour ça. Pendant une semaine, le souci, c'est que, bon, ça ne passe pas. Hein, il a de la fièvre, la nuit, il est de plus en plus fiévreux, il a de plus en plus mal au ventre. C'est ma femme qui le ramène donc, chez notre médecin traitant. Et là, elle suspecte effectivement, peut-être un début d'appendicite. Donc, le jour même, moi, travaillant le matin, je suis libre l'après-midi, j'emmène mon fils à l'hôpital, au CHU de Saint-Étienne, pour une suspicion d'appendicite. Le souci, c'est que je rentre à l'hôpital, et à ce moment-là, je ne sais pas encore, mais je ne vais pas en ressortir pendant un bon moment, parce que d'après les examens, il garde notre fils. Et le lendemain, nous sommes convoqués avec ma femme. On s'entendait pas à ça. Effectivement, on n'est pas préparé à ça. Voilà, Mathis a une tumeur sur le foie de 16 cm. On est déjà au niveau du grade 4, donc à un stade très avancé de la maladie. On reçoit ça en pleine face. J'ai l'impression, enfin moi personnellement, j'ai l'impression que le ciel me tombe sur la tête. J'ai vraiment du mal à encaisser parce que tumeur, cancer, le foie, c'est des mots qui ne font pas forcément partie de mon quotidien à cette époque-là. Voilà, on rentre tout de suite en oncopédiatrie. C'est là où on traite les enfants, effectivement, malades du cancer. pour que mon fils reçoive tout de suite les premières cures de chimiothérapie. En tant que parent, la nouvelle est difficile à admettre parce que mon fils n'a jamais été malade. Il n'était jamais malade jusqu'à présent, hormis quelques maladies enfantines. Mais il allait très bien. Et tout d'un coup, on vous annonce tout de même une tumeur sur le foie. Donc, il faut digérer l'annonce. Avec ma femme, on en discute parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui va nous lier, de se dire, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit plus fort que ça. Donc tout de suite, à l'annonce de la maladie, on décide de tout mettre en œuvre pour accompagner le mieux possible Mathis, dans son début de maladie. C'est-à-dire que dès le début, mon médecin traitant nous arrête tous les deux pendant un mois pour accompagnement d'enfants gravement malades, pour pouvoir justement permettre... que Mathis rentre en oncopédiatrie et ses premières cures de chimiothérapie, que nous, on puisse, en tant que parents, être là toute la journée. C'est-à-dire que ma femme, la journée, moi, la nuit, puisqu'on ne le laissait jamais seul, on a dormi des nuits là-bas, avec la famille aussi, la grand-mère. Donc, on n'a jamais laissé Mathis tout seul. Donc, c'est une question d'organisation. Et puis, il faut garder le moral. En tant que parent, je crois que c'est important parce que les enfants ressentent beaucoup. Hein. Donc, si on arrive un peu déprimé, tout ça, l'enfant le ressent. Donc, il faut, parfois, il faut prendre sur soi, il faut prendre une bonne respiration quand on rentre dans la chambre. Et, ouais, allez, ça va, ça va aller, ça va le faire. Voilà, donc c'est un moment compliqué parce qu'il y a l'annonce de la maladie et puis il y a tout le milieu hospitalier qu'on ne connaît pas, tout ça, dans un nouveau service, l'oncopédiatrie, avec tout ce que ça engendre. Voilà. Donc effectivement, c'est une unité dont on ne connaît pas. On n'a pas des raisons de la connaître. Mais, on ne connaît pas ce service-là tant qu'on n'a pas un enfant qui est malade. Mais nous, ça a été le cas. On est rentré dans ce service. Et on a vu d'autres enfants dans la même situation que notre fils, en cure chimio, tout ça. Donc on s'est dit, ouais, il y a des enfants, il y a un monde, et des enfants touchés par le cancer. Voilà, donc on rentre dans une autre dimension. Je crois que c'est le mot à ce moment-là, c'est on rentre dans une autre dimension. Et on rentre et on va vivre avec la maladie. Au bout d'un mois, on a mis en place une organisation effectivement à l'hôpital pour que Mathis soit jamais seul. Donc ça y est, ça roule, ça fonctionne. Il y a une sorte de tournante avec lui, avec ma femme, avec la famille. Et moi, j'ai un désir de continuer le travail, de retourner au travail, puisque j'ai toujours travaillé. Hein. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans la même entreprise. Et c'est un souhait de reprendre le travail, de reprendre une certaine vie, la vie que j'avais avant. Bon, maintenant, une certaine vie avec un fils gravement malade, d'accord, mais reprendre le travail. Donc, je reprends le travail tout naturellement, en sachant que la direction est au courant de la gravité de la maladie de mon fils et me facilite largement mon emploi du temps. J'ai un poste de fin de semaine, mais c'est vrai que je pose souvent mes jours. Je travaille le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À cette époque-là, je pose bien souvent le jeudi, vendredi pour être disponible la semaine, mais je travaille le samedi, dimanche. Comme ça, ma femme prend le relais. Donc voilà, donc je commence déjà à poser des jours pour m'occuper de mon enfant. On est au mois de juin donc 2008, les cures de chimio ont fait leur effet, sur le foie de mon fils. La chimio a réduit la tumeur, mais le foie est très attaqué. Donc, on est début juin et mon fils est inscrit sur la liste de super urgence pour une transplantation hépatique, donc pour une greffe de foie. Donc, on est en attente depuis, j'allais dire début juin, on est en attente d'un foie. À ce moment-là, je suis de nouveau arrêté par mon médecin, toujours par accompagnement d'enfants gravement malades, puisqu'il faut savoir qu'on nous dit, à ce moment-là, depuis le 1er juin, vous pouvez partir à tout moment, parce qu'un foie, on peut en trouver un à tout moment, vous pouvez partir, faites vos valises, gardez-les vers la porte d'entrée, vous pouvez partir à tout moment sur Paris pour une greffe. Donc on est là, on est toute la famille, on reste à la maison, les bagages sont faits, et on attend un foie. Le foie arrive fin juin, c'est-à-dire qu'on a attendu pratiquement 3 semaines. Fin juin, il y a un foie, il y a un donneur, et à ce moment-là, on est appelé, et le transfert depuis notre maison jusqu'à Paris se fait en hélicoptère. Donc j'accompagne mon fils en hélicoptère depuis Saint-André-le-Puy jusqu'à Paris, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et c'est bizarre parce que on attend un foie. Donc c'est vrai que pour nous, parents, donc on est en attente. Alors c'est un moment un peu d'attente, de longue haleine, on attend. Et le jour où on nous annonce que Paris nous appelle en disant « voilà, on a trouvé un foie », il y a une sorte de délivrance, parce qu'on sait que notre fils Salier va être transplanté, on va lui changer ce foie qui est abîmé, hein, qui est très endommagé. Donc pour nous, on va vers une sorte de guérison, c'est-à-dire qu'on va vers une transplantation hépatique, qui est quand même une grosse opération, on est quand même préparé à ça, puisque maintenant, la transplantation hépatique, on est monté 3 fois sur Paris, rencontrer l'équipe qui allait s'occuper de notre fils, voir les locaux, discuter avec le professeur qui allait transplanter notre fils. Donc, on amène le patient, j'allais dire, on amène mon fils, on va visiter l'hôpital, on rencontre l'équipe soignante. Donc, il y a une approche, voilà, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le patient, on l'emmène à Paris. Non, non, on est monté 3 fois à Paris, on connaît les lieux, on connaît le service, on connaît la personne qui va transplanter notre fils. Donc, voilà, donc on monte à Paris, j'allais dire, sereinement. Content, parce qu'on a trouvé un foie, sereinement et rempli d'espoir. Mon fils a été opéré fin juin. Il a mis 1 mois et demi pour s'en remettre. Donc, on est resté à Paris pendant 1 mois et demi. Hein. Et après, bon, il y a eu le retour à la maison avec un enfant, vous pouvez le comprendre, très fatigué parce que ça reste une opération quand même lourde, même si elle était couronnée de succès. Et juste après l'opération, mon fils a reçu à Paris, à Gustave Roussy, une cure de chimio assez forte, qui l'a beaucoup fatigué. Donc, c'est vrai qu'on est revenu avec un enfant, avec un nouveau foie, hein, transplanté, mais un enfant très fatigué, content de revenir à la maison tout de même. Mais on est revenu, c'était mi-août, à la maison. Donc, il a fallu pratiquement aller tous les jours en oncopédiatrie à Saint-Étienne pour passer des poches de sang, pour essayer de remonter un peu son niveau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a pris du temps. Il fallait être souvent à l'hôpital, il fallait l'accompagner. Et moi, j'avais un souhait à ce moment-là, c'était de reprendre quand même le travail rapidement. Voilà, j'avais un enfant qui était transplanté, certes, mais qui était encore très, très fatigué. Il fallait aller tous les jours à l'hôpital. Donc, il avait besoin encore de ses parents. Mais j'avais quand même ce souhait de reprendre le travail rapidement, mais dans des conditions, pas dans ces conditions-là encore. J'attendais que mon fils aille mieux. Et c'est à ce moment-là que j'étais contrôlé. J'ai reçu un courrier de la Sécurité sociale où j'étais contrôlé. Je reçois un courrier, donc c'était fin août 2008, je reçois un courrier m'informant comme quoi j'avais rendez-vous avec un inspecteur de la sécurité sociale sur effectivement mon cas, puisque j'étais à l'époque en arrêt maladie, Et je me rends à ce rendez-vous sereinement, parce que j'allais expliquer, je voulais expliquer à cet inspecteur quelle était la situation du moment. Et je pensais sincèrement avoir en face de moi quelqu'un qui puisse comprendre la situation. Donc, j'ai ce rendez-vous, je m'y rends, et ce monsieur me dit, vous savez, c'est votre fils qui est malade, c'est pas vous. Et je lui dis, mais j'en suis très, très conscient. J'en suis conscient, c'est mon fils qui est malade, c'est pas moi, moi je vais bien, heureusement, mais j'ai mon fils qui sort d'une transplantation hépatique, il a une chimio derrière très forte, je lui dis pour l'instant il se remet tout doucement, je lui dis moi j'ai qu'un souhait, c'est de reprendre le travail, je lui dis écoutez, je sais que les arrêts maladie ce n'est pas fait pour ça, je lui dis je vous demande 15 jours, simplement 15 jours, mon fils se remet tout doucement, dans 15 jours ça ira mieux, voilà. Et je pourrais reprendre le travail correctement en sachant que mon fils va bien. Le monsieur, je ne sais pas, il m'a dit non, c'est votre fils qui est malade, ce n'est pas vous. Donc la semaine prochaine, je vous coupe les droits, il faut reprendre le travail. Donc je n'ai pas voulu polémiquer, j'ai pris sur moi et je suis rentré à la maison. Effectivement, un petit peu désabusé parce que... Par le fait que ce monsieur me dise « ne concède pas ces 15 jours que je demandais », c'est encore une nouvelle fois mon fils qu'on pénalisait à travers ça. Mon fils, il n'avait pas encore besoin de ça. Il y a un cancer de foie, il était transplanté, il était fatigué. C'est encore... je crois que je lui ai dit, vous savez, c'est pas moi que vous pénalisez, c'est mon fils encore une nouvelle fois, il n'a pas besoin de ça. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Donc, à partir de ce moment-là, le lundi, je n'avais pas le choix, j'ai été obligé de reprendre le travail. Il faut savoir que mes collègues, l'équipe dont je faisais partie, l'équipe de fin de semaine, et d'ailleurs même tous mes collègues de l'usine, étaient au courant de la situation que je vivais, étaient au courant effectivement de la transplantation de mon fils, ils étaient au courant. Et quand je suis revenu au travail le lundi, beaucoup se sont interrogés en me disant « Christophe, tu reprends le boulot déjà, et ton fils, j'en ai écouté. J'ai pas le choix, voilà ce qui s'est passé. J'ai un inspecteur qui m'a contrôlé, j'ai reprendre le travail. Je n'ai pas le choix, si on a coupé mes droits. Bon, c'est un petit peu la compréhension de la part de mes collègues. Et à ce moment-là, beaucoup sont venus me voir en me disant, Christophe, est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'il y a un moyen de t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Alors, beaucoup se sont proposés de m'aider à faire mes courses à ma place, à faire mon jardin à ma place, à s'occuper de ma fille si elle avait besoin de quoi que ce soit. Ils se sont proposés sur beaucoup, beaucoup de choses. Et je leur ai dit, il me faudrait du temps. Moi, j'ai pas de temps. Il me faudrait du temps pour m'occuper de mon fils. Et c'est mon chef. C'est mon chef qui a entendu cette parole et qui, lui, a eu un déclic en disant « S'il lui faut du temps, on va essayer de lui en trouver. D'une manière ou d'une autre, on va essayer de lui trouver du temps. » Oui, j'ai demandé du temps. Et mon chef a capté ça et a dit à mes collègues je vais m'en occuper, j'en fais une affaire personnelle, je vais m'en occuper, on va trouver un moyen de lui donner du temps. Donc, ça s'est fait un peu derrière mon dos. Mon chef a réuni l'équipe, a dit qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut donner des jours, est-ce qu'on peut donner des heures, est-ce qu'on peut donner des congés. Donc, il s'est un tout petit peu renseigné. Il est passé voir les gens de notre équipe et les gens de tous les services, savoir si les gens étaient susceptibles de me donner du temps par ce biais-là. Donc, il a fait circuler une feuille au sein de l'entreprise en disant, voilà, est-ce que vous voulez donner des jours, des heures pour M. Germain, pour qu'il s'occupe de son fils. Donc, ça a été un succès puisque j'ai récolté 170 jours, mais je ne l'ai pas su au départ puisque il a fallu l'accord de la direction, puisque à ce moment-là, il n'existe rien, il y a un vide juridique au niveau du don de jours. Mon chef va voir la direction, voilà ce qu'on propose. La direction se retrouve un tout petit peu coincée en disant, bon, on n'accepte pas, ça ne s'est jamais fait. L'usine remonte un peu plus haut, puisqu'on dépend d'un autre groupe. On demande un peu plus haut à la hiérarchie s'il est possible. Et effectivement, ils donnent leur aval, la direction donne l'aval pour ce don de jours. Voilà, donc moi, après... mon chef revient me voir en me disant, voilà Christophe, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a fait, tu voulais du temps, on a réussi à t'en donner, voilà le moyen qu'on a trouvé, c'est que les gens t'ont donné des jours, des heures, tu as à ta disposition 170 jours pour pouvoir t'occuper de ton fils, et si il n'y en a pas assez, on est capable de refaire encore un tour de... Ce don de jour, c'est quelque chose qui est c'est indéfinissable. Parce que je suis dans une période, effectivement, vous pouvez le comprendre, de doute, des choses. On me donne, j'en suis pas forcément conscient au moment où on me le dit, on me donne le plus beau cadeau. J'ai dit, ouais, c'est formidable. Tous mes collègues ont participé, je pense, puisque le don est anonyme. Je ne sais pas qui a donné et combien de jours. D'ailleurs, même à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas qui a donné tout ça, mais c'est le principe. Je me dis quand même, voilà, les copains, ils ont fait un bel effort. C'est un élan de solidarité exceptionnel. J'en profite à ce moment-là pour les remercier. Je fais passer dans tous les services une photo de mon fils, avec un petit texte en disant « Merci d'avoir donné du temps à mon papa ». C'est la seule chose qui m'est venue à l'esprit pour les remercier. C'est ce petit mot tout simple, mais tellement reconnaissant envers eux. Donc, j'ai dit « Ça y est, j'ai du temps ». Donc, très bien. Je les ai gardés de côté. Mon fils va bien. Il se remet de sa grosse opération. Et on est dans une période où on espère tout de même sortir de cette maladie. Donc, je ne prends pas mes jours tout de suite. Hein, je continue à travailler. Mon fils va... bien, hein. On continue à le suivre régulièrement à l'hôpital. Et arrive Noël, il faut savoir que quand un enfant est transplanté, on monte tous les 15 jours à Paris, hein, pour le contrôle de son foie, pour des analyses. Et on arrive pratiquement vers Noël, on a un contrôle sur Paris juste avant Noël, et on m'annonce que les résultats de Mathis sont pas très très bons. Donc on redescend donc sur Saint-Étienne et effectivement quelques temps après on s'aperçoit que il y a des métastases, hein, qui se sont développées ailleurs et là c'est la rechute. Donc à ce moment-là, le cadeau qu'ont fait mes copains, ces jours, eh ben je les utilise. Parce qu'il faut refaire des chimiothérapies. Mathis va être opéré une nouvelle fois sur Paris au mois de juillet 2009. Ça se complique. Son état se complique. C'est vrai que sa situation s'aggrave. Et moi, à ce moment-là, voilà, j'utilise mes jours pour l'accompagner aussi bien à Saint-Étienne en oncopédiatrie que sur Paris, parce qu'on a souvent des séjours à Paris. Donc, j'utilise mes jours à ce moment-là. Son état, effectivement, se dégrade à Paris. Juillet 2009, il est opéré. On essaye d'enlever toutes les métastases, des choses comme ça. Et l'opération n'a pas le succès escompté. Donc, on est reçu par le grand professeur qui l'avait transplanté et qui nous a fait comprendre à nous parents que la maladie allait certainement prendre le dessus. Voilà. Alors, c'est une terrible nouvelle pour nous parents parce qu'on met tous les espoirs dans la transplantation, dans la chimiothérapie, dans le courage de notre petit enfant qui, que je m'ai baissé les bras, qui a toujours fait preuve d'un courage extraordinaire. Alors, nous parents, effectivement, on revient de Paris abasourdi, groggy, vraiment un petit peu défait quand même. Il ne faut pas le faire voir à notre fils. Il faut être encore fort. Ça demande beaucoup d'efforts pour nous. Et on ne lui cache pas, que ça sera compliqué pour, avec sa maladie. Nous sommes en septembre. Et son état, effectivement, se détériore rapidement. On prend la décision avec le professeur donc en pédiatrie, d'arrêter tous les traitements, puisque on a trouvé chez notre fils une tumeur au cerveau qui n'est pas opérable. À ce moment-là, c'est notre fils qui en fait la demande. On met en place à la maison une HAD, c'est-à-dire qu'on a le souhait, et il a le souhait, de rester chez lui, entouré de ses parents, de sa sœur. Donc, c'est un moment compliqué parce que une hospitalisation à domicile, il y a le pour, le contre, mais c'était sa volonté. Donc, on n'a pas été contre. Et les jours de congé que m'ont donné mes collègues prennent tout leur sens à ce moment-là, puisque je ne retourne pas au travail. Je peux m'occuper 24 heures sur 24 de mon fils, qui est à la maison et qui va faire malheureusement sa fin de vie. Nous sommes le 31 décembre donc 2009, donc notre fils décède à ce moment-là. Et j'ai le souhait, quand même rapidement derrière, de reprendre le travail. Il y a un travail de deuil à faire, effectivement, mais je souhaite reprendre rapidement le travail pour reprendre une certaine forme de vie, entre guillemets, et retourner dans une entreprise qui vous a aidé, qui vous a soutenu, dont les collègues sont à l'origine de cet élan de solidarité avec les dons de jour, facilite grandement la réintégration. Donc, je reprends le travail rapidement au mois de février. J'ai été toujours soutenu depuis l'annonce de la maladie, hein, depuis, j'allais dire, février 2008. Tous mes collègues m'ont soutenu. À travers cette période très difficile, ils m'ont toujours soutenu, plus mon équipe, puisque ça faisait des années qu'on travaillait ensemble, plus mon équipe qui a toujours été derrière moi, qui a toujours pris des nouvelles, qui m'a toujours soutenu. Donc reprendre le travail dans cette équipe-là, avec mon chef, qui est à l'origine des dons de jour. Donc j'avais besoin, moi, de retrouver cette unité-là, de retrouver mes collègues. Et quand j'ai repris le travail, il n'y a pas eu besoin de dire beaucoup de discours. Il n'y a pas eu besoin de... parfois, un geste, un regard. Ouais, ça voulait tout dire. Ma femme reprend le travail aussi, parce qu'elle souhaite aussi, elle, de son côté, reprendre aussi rapidement son travail, parce qu'elle était, ça fait 10 ans qu'elle était dans la même entreprise aussi, elle souhaitait aussi reprendre le plus rapidement son travail. Et en passant sa visite médicale pour reprendre le travail, elle a confié au médecin du travail ce qui nous était arrivé et ce qui m'était arrivé à moi pour avoir du temps pour s'occuper de mon fils, ce don de jour. Elle lui a dit, Madame Germain, il ne faut pas garder ça pour vous. Il ne faut pas garder ça pour votre famille. Il faut essayer d'en parler. Il faut essayer de communiquer. Il faut essayer de faire en sorte que le plus de gens puissent connaître ce qui a été fait pour votre mari. Donc, elle est revenue à la maison et elle m'a dit, il faudrait qu'on puisse en parler. Il faudrait qu'on puisse faire connaître ce dont tu as bénéficié dans ton entreprise sur ces dents de jour. Donc, on décide à ce moment-là de convoquer la presse locale. Elle le fait. Une journaliste vient avec un photographe. On raconte cette histoire de dents de jour. Et le lendemain, on est en première page du journal La Tribune de Progrès. On fait la une de ce journal. Et après, ben, c'est le téléphone qui sonne, c'est les radios, c'est la télévision, c'est tous ces médias-là qui veulent s'emparer de cette histoire. Le but d'avoir convoqué, nous, la presse, c'était pour faire connaître effectivement le nos jours, mais c'était surtout un moyen de remercier mes collègues de travail. C'est un moyen de dire, voilà ce qui s'est passé dans cette entreprise. Voilà, il y a encore certaines formes de générosité qui peut se mettre en place au sein d'une entreprise. C'était avant tout pour les remercier. Et quoi de plus naturel que de passer par la presse et que tout le monde sache un peu ce qui s'était fait voilà, dans cette entreprise. C'était simplement ça. Nous, on n'a pas vu plus loin que ça au début. Et quelqu'un nous dit, une journaliste nous dit, il faudrait aller encore plus loin que ce que vous venez de faire. Vous avez fait connaître votre histoire, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et c'est ma femme, encore une fois, qui a eu cette idée de dire, il faut donner un cadre légal à ce que tu as eu sur les dons de jour, il faut faire une proposition de loi. Alors, nous, on est, j'allais dire, loin de tout ça. On n'est pas du métier, entre guillemets, je ne sais pas comment dire. On n'a aucune notion, j'allais dire, de comment faire une loi, comme ça. On a la chance, dans notre entourage, d'avoir quelques amis, avocats des affaires sociales. On les convoque. On leur exprime le souhait d'aller plus loin que ce qui a été dit dans la presse, d'un projet de loi. On y travaille dessus. Pendant un mois, on se rencontre à nouveau. Chacun travaille de son côté. On utilise nos énergies, on utilise nos idées. Et il y a un premier jet qui est fait sur une proposition de loi. Je m'empresse de prendre le dossier, d'aller voir M. Chaussy, qui est notre député de circonscription. M. Chaussy a cet avantage d'avoir déjà proposé des lois sur le handicap. Donc, on frappe, je pense, à la bonne porte. Il m'accueille un soir dans son bureau de sa permanence. Je lui dis, voilà, je suis M. Germain, j'ai eu les dons de jour dans la société, pas loin de chez vous. Et il me dit, c'est bon. Il me dit, j'ai compris. Lui avait compris. Il me dit, vous voulez en faire un projet de loi? Je lui dis, oui. Il me dit, asseyez-vous. Il a pris le temps de m'écouter. On a discuté. J'ai déposé le dossier. Il m'a dit, ça risque d'être long. Ça risque d'être long, parce qu'une loi, c'est compliqué. Mais il me dit, on va y arriver. Nous avons créé une association qui s'appelle D'un papillon et une étoile. Et c'est cette association qui a porté le projet du don de jour. Alors, je pense que c'est un peu l'innocence de la question à l'époque, parce que pour moi, je pensais une loi, j'ai dit on va écrire un texte, on va le présenter, puis notre député va monter à Paris et il va la présenter. Moi, je voyais le parcours quand même assez simple. Enfin, je sais pas, je m'étais imaginé que ça pouvait être assez simple, une loi. Voilà. Mais c'est quand même, quand je m'y suis penché dessus, quand j'ai commencé à me renseigner, c'est quand même plus compliqué que ça. Il y a la commission des affaires sociales, il faut que ça passe. Déjà, il faut que ça passe par là. Après, bon, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, puis il faut quand même savoir que ce que vous avez écrit au départ n'est pas forcément ce qui va ressortir de la loi, puisque on peut y mettre des amendements, certains groupes voudront peut-être mettre des choses. Donc finalement, peut-être que M. Saucy m'avait dit, vous savez, M. Germain, ce que vous m'avez écrit là, c'est peut-être pas forcément ce qui ressortira plus tard, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont mettre des choses. Donc on s'est lancé avec beaucoup d'innocence, hein, on ne savait pas, mais je le redis, je pense qu'on a frappé à la bonne porte et on a rencontré la bonne personne au bon moment. Pendant les 18 mois de la maladie de notre fils, on a rencontré énormément de parents, donc aux pédiatries de Saint-Étienne ou au Kremlin-Bicêtre à Paris. Et la première chose quand on se voyait, c'est qu'effectivement, on demandait des nouvelles de leur enfant. Et deuxièmement, c'est-à-dire comment vous faites ? C'est-à-dire, pour vous en occuper, comme vous faites avec votre employeur, il y en a beaucoup qui avaient arrêté de travailler. Beaucoup étaient malheureusement en dépression, parce que c'est quand même quelque chose, quand vous avez un enfant qui est gravement malade, il y a de quoi être dépressif. Hein, faire face, c'est très compliqué. Il y en a qui étaient en dépression, il y en a qui étaient en arrêt maladie. Il faut du temps pour s'occuper de son enfant. Donc, du temps, ils ont trouvé un peu comme ils pouvaient. Et moi, quand je racontais, et quand je leur disais, mais écoutez, moi, c'est mes collègues qui m'ont donné des jours de congé. Il y a des gens, ils me regardaient. Oh! Ils m'ont dit, c'est vrai que... Ils m'ont dit, vous avez de la chance. De la chance, parce que dans mon entreprise, je ne sais pas si ça pourrait se faire, je ne sais pas. Donc, c'est tout ce ressenti, c'est tout ce qu'on a vécu pendant 18 mois de maladie avec d'autres parents qui nous ont forcés à aller jusqu'au bout. Voilà, ça nous a donné de l'élan. Quand je vais voir M. Chaussy, donc le premier mois, il s'occupe effectivement de la loi. Hein, il monte à Paris. Il me rapporte un petit livret signé par d'autres députés. Il me dit, Monsieur Germain, il y a à peu près 140 collègues députés qui ont signé votre livret. En sachant qu'ils sont 500 et quelques à l'Assemblée nationale. Je me dis, ils ne sont pas nombreux. Enfin, je sais pas. Il m'a dit, Monsieur Germain, détrompez-vous. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Monsieur Chaussy, à l'époque, est conforté dans le gouvernement Fillon et doit s'occuper au niveau national du handicap. Voilà. Donc, il laisse sa place à son suppléant, qui est Monsieur Paul Salen, qui reprend effectivement ce projet de loi va à Paris. Cette loi est donc passée devant la commission des affaires sociales. Monsieur Paul Salen, je me rappelle bien, sort de cette commission, il doit être 22h ou 23h, il nous appelle de Paris et il nous dit, c'est bon, on est passé devant la commission des affaires sociales, on a gagné, c'était déjà un premier succès, donc maintenant on va aller à l'Assemblée nationale. Voilà, alors pour nous c'est un moment de bonheur parce que on suit ce projet de loi. On le suit, ça y est, ça avance, ça bouge. Et on va pouvoir aller enfin à l'Assemblée nationale en première lecture. On passe à l'Assemblée nationale, elle est votée donc en première lecture. Et après, il a fallu attendre un tout petit peu, parce qu'on a changé de mandature, pour que ça soit, elle passe au Sénat, pour qu'elle soit acceptée. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'amendements. On a eu la chance. De pouvoir participer, d'aller voir notre loi être débattue à l'Assemblée nationale avec ma femme et ma fille, pouvoir participer dans voir effectivement ce qu'on avait écrit, le voir matérialiser, le voir concrétiser à l'Assemblée nationale dans un haut lieu, je vais dire de la République, dans un endroit magnifique, hein, l'Assemblée nationale. Et j'ai encore eu une deuxième chance de pouvoir aller au Sénat, voir la loi effectivement être votée définitivement et acceptée. « c'est dans la continuité du combat de mon fils. Lui, il n'a jamais baissé les bras. Et il y a toujours cru. Donc, je dis toujours que c'est lui qui l'avait dit, que le courage, c'est savoir surmonter ses peurs. Alors, ben, nous, parents, ben, on a surmonté nos peurs. Et on a eu du courage, il en a fallu, pour essayer de porter cette loi. Quand vous perdez un enfant, c'est la chose la plus horrible qui puisse vous arriver en tant que parent. Vous perdez un enfant, derrière, il faut rebondir. Il faut repartir, il faut aller de l'avant. La vie ne va pas vous attendre, la vie, elle continue. Donc, c'est vrai que ce projet de loi, la création de l'association, nous a porté. Après, faire son deuil, c'est toujours compliqué de dire faire son deuil, parce que finalement, on n'oubliera jamais. Ça nous a porté, ça nous a donné une direction, ça nous a donné de la force. C'est une certaine fierté. Alors, au début, c'est vrai qu'on ne réalise pas. Maintenant, avec le recul, c'est vrai qu'on se dit qu'on a fait quand même quelque chose d'assez important. On a mis une pierre à l'édifice. C'est-à-dire de partir d'un projet de loi écrit sur une table. On a monté une association. Il y a des gens qui se sont rendus disponibles. On a eu le soutien de la famille, des amis. Tout le monde a porté ce projet. Je tirerai jamais la couverture à moi en disant c'est moi qui, c'est moi. Non, c'est tout un groupe. C'est toute la famille. C'est les amis. C'est Monsieur Chaussy, Monsieur Paul Salen, c'est tous les contacts qu'on a eus, tous ces gens-là qui nous ont portés. Et au bout du compte, il y a une certaine fierté d'avoir mené quand même ce combat. Alors, ça ne ramène pas notre fils, ça c'est sûr, mais à quelque part, on se dit, voilà, la loi dit Mathis, et mon fils a une loi qui porte son prénom. C'était le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Wedraogo. La musique a été composée par David Stank. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Et Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur Apple Podcasts et à suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, Slate Podcast, Transfert et Louis Media. Et vous pouvez toujours m'écrire à Chapudelot sur Instagram et envoyer vos histoires à podcast@slate.fr. À très vite.